le 6-9 sur France Inter.
Allez, c'est l'heure de la revue de presse avec vous, Jean-Philippe Ballas, bonjour.
Bonjour à tous.
Ce matin, vous nous parlez d'une lettre égarée.
Que je découvre en photo dans le Figaro, une lettre au format A4, soigneusement pliée, constellée de « je t'aime » en tous sens, avec de petits cœurs enfantins. Alors je le concède, difficile de faire plus gnangnan, ou du moins plus explicite dans le genre enflammé, parce que là, des « je t'aime », j'en compte tout de même une bonne vingtaine au moins. Le problème, c'est que cette lettre n'est jamais arrivée à bon port. La faute à une adresse incomplète ou illisible. Alors la missive a échoué là, dans ce grand centre de tri du service de la Poste à Libourne, où Colline Renaud vous emmène en exploration. Parmi ces axes entiers de mots jamais ouverts, ce monde parallèle des actes manqués, ces factures, ces cartes postales, et donc ces lettres d'amour ou de rupture, peut-être même les deux à la fois. Mais attention, ces courriers ne sont pas vraiment perdus, puisqu'ils sont ici, rectifie monsieur le directeur, dans ce vaste entre qui joue le rôle de tribunal de la dernière chance, là où postières et postiers se transforment en délicats détectives. Ils découvrent les correspondances, ils pénètrent les intimités, mais il faut du tact, une certaine pudeur, raconte le Figaro. Lire la lettre en diagonale, se détourner du trop personnel pour ne pas trahir la confiance, se concentrer sur les indices uniquement. Cela représente tout de même 20 000 documents par jour. Mais parfois, il y a de belles histoires, comme cette enveloppe d'où s'échappent des dizaines de photos de famille en noir et blanc. Des vacances à la plage, des communions, toute une mémoire perdue sans adresse. J'y ai passé des heures, se souvient un employé. J'ai recherché sur Internet l'intitulé exact des lieux. Mais finalement, j'ai réussi. Le courrier n'est plus orphelin. Alors, dans un autre genre, nous dit le Figaro, il y a aussi ce qu'on appelle les lettres thérapeutiques, ou si vous préférez, des missives postées comme des bouteilles à la mer, destinées au hasard pour n'être lues que par le destin, avec des adresses de circonstances, rue de la demande du pardon, ou pour le village de Cesson-la-Querelle. J'aime bien le village de Cesson-la-Querelle.
C'est joli, oui.
J'aime bien aussi la rue de l'impasse, au moins là, c'est très clair.
Claire aussi, la une de l'Express, c'est la loi de la jungle.
Avec des tigres, crocos et autres charognards qui se disputent une carcasse ensanglantée, pour vous parler de quoi? Eh bien, du capitalisme français, messieurs, dames. Le CAC 40, où tous les coups sont permis, vous dit l'Express. Rumeurs et trahisons, raids en série. C'est un vent de folie, on n'a jamais vu ça, s'enflamme un avocat, une telle violence, de Danone à Suez-Veolia. Il n'y a plus de capitaine à la barre, résume le vice-président d'Havas, Stéphane Fuchs. C'est le monde d'après, un monde sans tête, cela rend forcément la recherche du compromis plus compliquée. D'autant que les rapports de force s'exercent désormais sur la place publique, à travers les médias, les réseaux sociaux. Et si le capitalisme français n'était finalement que le reflet de notre société, de plus en plus fragmentée, conflictuelle, judiciarisée? Je note malgré tout cette conclusion signée à la main, quand il y a de l'argent sur la table, on finit toujours par s'arranger. Après la loi de la jungle, du vert encore, mais disons du vert plus apaisant, et c'est vrai qu'elle fait plutôt du bien. Cette photo à la une de la Croix, cette petite fille pensive, aux boucles blondes et au grand air, perdue dans un champ de blé, accompagnée d'un tournesol égaré, pour nous dire que ça y est, Bruxelles a dévoilé son projet législatif pour une zone zéro carbone en 2050. Nombre de vos journaux reviennent ce matin sur cette révolution, ce Big Bang, que dis-je, ce tsunami législatif. Le Républicain Lorrain et les Échos n'ont pas d'image assez forte pour vous raconter cette neutralité climatique, ce plan de bataille qui va bouleverser des entreprises, bien plus que l'extension du pass sanitaire dont on parle tant. Oui, cette fois, on entre dans le dur et dans le concret. Un plan à haut risque, confirme le Figaro à la une, plutôt méfiant le Figaro, qui nous parle d'une potion que les écolos les plus zélés trouvent bien légère, mais qui provoque déjà des sueurs froides chez les dirigeants, surtout dans les PME. Elle pourrait, si l'on y prend garde, nourrir la colère sociale. Attention à ne pas agiter un chiffon vert au visage des gilets jaunes. Et c'est un embouteillage de diesel et de super en première page du Dauphiné. Libération met aussi l'accent sur l'une des mesures phares de voiture électrique. Oui, c'est la fin de la vente des véhicules thermiques en 2035. Reportage à l'usine Renault de Douai. Il faut que ça reprenne, espèrent et s'inquiètent les ouvriers. Avec ce rôle, ce pôle spécial mis en place dans la région, là où l'on fabriquait des boîtes de vitesse, des pots d'échappement, il faudra se reconvertir dans les composants électroniques. Peur pour l'emploi, mais pas le choix, ne pas s'y signer, cela voulait dire sauter de la falaise et s'écraser en bas, résume un syndicaliste. Alors oui, on va s'y mettre. Même si dans la Voie du Nord, les professionnels savent bien qu'il faut moins de main d'œuvre pour fabriquer un moteur électrique qu'un moteur à essence. Même si on trouve aussi qu'il n'y a pas assez de bornes de recharge sur les routes. Même si bon, quand même, ces voitures-là, c'est pas donné. Bien sûr qu'il y a des pièges, des embûches, mais il y a aussi de l'ambition, estime Ouest-France à la une, tout comme la Croix, qui préfère souligner l'audace de la Commission. Une fois n'est pas coutume, l'Europe, dont Jean Monnet disait qu'elle n'avançait que dans les crises, l'Europe se met en mouvement avant d'avoir touché le mur, écrit Jérôme Chapuis. Il s'agit ni plus ni moins de l'avenir de notre planète.
Et vous terminez rapidement avec une photo.
Surgit du passé que je redécouvre soudain aux dernières pages de l'Humanité, prise le 5 juin 1989, place Tiananmen. Oui, il s'agit bien de cette image d'un homme debout, seul, désormais, désarmé face à une colonne de chars. Au sol, il reste des traces de ce qui semble être des flaques de sang, le roulement des chenilles, le massacre d'un printemps. L'auteur de cette photo, devenu historique, est un Américain. Il s'appelle Jeff Widner. Bien sûr, il n'imaginait pas un tel destin. C'est aussi l'histoire d'une jeune étudiante française qui, en quittant Pékin, acceptera de cacher la pellicule dans une boîte de thé. Un acte de courage pour une résonance dans le monde entier. Alors personne ne sait vraiment ce qu'il est advenu de l'homme sur la photo. Certains disent qu'il a été exécuté, d'autres qu'il vivrait caché. Ce matin, en tout cas dans l'UMA, il est toujours debout devant les chars et pour l'éternité.
Merci Jean-Philippe. France Inter.